Gloire à Dieu, célébrer Dieu est la source de ma joie. Alors à ma main droite, vous dites Dieu, à ma main droite, Dieu, plus fort s'il vous plaît, Dieu. Vous en face,
Dieu est la source de ma joie.
Derrière moi,
Dieu est la source de ma joie.
Et Dieu est la source de notre joie.
Amen.
Gloire à Dieu. Est-ce que notre frère Rico est ici? Merci. Voilà, notre frère va nous donner son témoignage. Et je crois que son témoignage est utile et nous voulons rendre grâce à Dieu.
Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Donc, si je suis ici, en fait, donc, Monsieur Maréchal m'a demandé de faire un petit témoignage par rapport à ce qu'on a traversé comme épreuve ces trois dernières semaines, on va dire. Donc, en fait, actuellement, ma mère est hospitalisée au CHU de Nantes, en fait, pour être soignée, donc, par rapport à ses problèmes de santé. Donc, on lui a amputé la jambe. Donc c'était très dur comme épreuve pour nous, mais en plus de ça, en fait, les médecins nous ont dit que comme quoi elle lui reste quelques... On lui compte ses jours, en fait, pratiquement. Donc il va falloir faire un choix par rapport au type de soins et puis par rapport à ce qui suit, donc, en fait. Donc la semaine dernière, donc, en fait, elle a plus mangé. Donc ils l'ont mis à jeun pendant 72 heures, donc, et en même temps, ils m'ont dit, bon, ben, clairement que les heures sont comptées. Donc, on ne peut pas lui opérer parce qu'elle a un problème au niveau de sa vésicule biliaire. Donc, du coup, comme elle est très faible, donc, ils n'osent pas opérer. Donc, ils l'ont mis à jeun. Donc, entre-temps, on a pas mal prié. C'est tout ce qu'on a pu faire, en fait. Et puis, on a lu pas mal la Bible, parce que pour nous, en fait, la promesse est dedans. Et que nous, on n'a pas la main, on a fait tout ce qu'on a pu, financièrement et physiquement, mais on sait qu'on a nos limites. Donc, on a prié, on a imploré le Seigneur, et à ce jour, hier, en fait, les médecins m'ont dit qu'ils ont fait une échographie, donc au niveau de sa vésicule biliaire, et puis donc il n'y a plus rien. Tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est que nous sommes dans l'épreuve. Souvent, il nous est impossible de savoir la volonté du Seigneur, mais la volonté dans sa parole et dans ses prières. Donc nous, quoi qu'il en soit, quelle que soit la suite des épreuves qu'on va endurer, que je ne sais pas, demain, et après-demain, puisque c'est tellement difficile pour nous, donc on reste dans la confiance du Seigneur, et puis dans sa prière, et puis avec sa parole, on arrive à vivre. Merci.
Merci. Gloire à Dieu. Ce qu'on peut dire, c'est aussi l'intégrité, quand notre cœur est intègre, Dieu est celui qui agit. La maman de notre frère, donc, ne pouvait pas recevoir les soins sur Madagascar, et donc notre frère a fait les différentes démarches pour la faire venir sur la France, sur Nantes. Il a vu les différentes personnalités. Il y avait un moyen très simple, c'est de la faire venir, et une fois rentrée sur la nation, elle aurait été prise en charge à 100%. Notre frère a refusé. Il fallait une somme très importante. Il a fait appel à la solidarité. Les sommes ont été, semble-t-il, récoltées selon les sommes. L'intervention chirurgicale a pu avoir lieu. Et après l'amputation, bien sûr, sa maman était très très faible. Et ce qui est aussi important, c'est que les heures étaient comptées, comme disait notre frère, pour sa maman. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Notre frère est conscient que sa maman peut partir d'un moment à l'autre, mais ils auront fait le maximum, et la joie de l'accompagner aussi, de la fortifier dans sa foi, de lire la parole de Dieu et de prier pour que son salut, pour sa foi en Jésus-Christ. Elle est protestante, donc elle a déjà la parole de Dieu. Nous avons prié ensemble et nous voulons rendre grâce à Dieu. Je crois que c'était important que vous entendiez ce témoignage. Et quelle que soit l'épreuve, nous ne comprenons pas toujours tout, mais Dieu est celui qui glorifie son nom. On pourrait se lever, s'il vous plaît.
Seigneur notre Père céleste, nous voulons te rendre grâce parce que nos destinées sont entre tes mains. Merci pour Rico, merci pour Zou, merci pour Harry, merci pour sa maman. Nous te prions, Seigneur, de bénir en abondance. Merci pour cette grâce, cette bénédiction, Seigneur. Nous te louons et nous te remercions pour la puissance de l'Esprit de Dieu qui glorifie le nom du Seigneur. Sois béni, sois remercié à tout jamais. Amen. 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 Merci.
Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17e. Partir du verset 15e. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à lui parler. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? » Car tu nous fais entendre des choses étranges,
Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurés à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul se retira du milieu d'eux, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagiste, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible nous dit dans quelles circonstances l'apôtre Paul s'est retrouvé à Athènes. Et si l'on regarde le commencement du chapitre 17e, après l'annonce de la parole de Dieu dans ces villes, il a reçu son mandat d'expulsion et il s'est retrouvé à Athènes seul. Seul dans cette grande ville, un des centres de la culture littéraire, du tourisme, de la jeunesse qui lit, qui discute et fait du sport, et à Athènes des écoles de philosophie, et tout ce monde ne passait leur temps qu'à dire et à écouter les nouvelles. Ce qui veut dire qu'à cette époque, Athènes étant ce grand centre, les hommes et les femmes d'où ils venaient communiquaient les différentes l'actualité. Les choses sont différentes aujourd'hui. L'actualité, nous la connaissons en quelques minutes, quel que soit le pays
d'où les nouvelles arrivent. C'est impressionnant d'apprendre les bonnes, les mauvaises nouvelles de par le monde entier en quelques nouveaux minutes. Athènes, comme la Bible révèle, était une ville pleine d'idoles, remplie de temples et de statues et de divinités païennes. Ce que l'on remarque, c'est l'association de la culture avec l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul, quand il est seul, c'était pour lui l'occasion peut-être de faire le point, de dire « j'ai été malmené, j'ai été persécuté, j'ai été exclu, on me poursuit ». Alors là, dans cette grande ville, je vais me reposer un petit peu. Mais la Bible nous dit que cet homme, dans cette grande ville, a pu remarquer tout ce qu'il est écrit, mais en réalité, il ne va point se taire. Il a quelque chose pour la jeunesse. Il a quelque chose pour les enfants. Il a quelque chose pour même les philosophes. Les philosophes viennent lui demander quelques explications et la Bible nous montre que veut dire ce discoureur, c'est-à-dire le picoreur de graines. Qu'est-ce qu'il nous amène comme graines ? Qu'est-ce qu'il nous amène comme semence ? Et il se dit, mais comment vais-je pouvoir transmettre le message à ces hommes et à ces femmes ? La première chose qu'il a remarquée, avant qu'il soit conduit à l'aréopage, c'est en réalité cet autel avec un Dieu inconnu. C'est comme si les uns les autres, nous voyageons. Et puis, dans nos voyages, nous voyons différentes statues, nous voyons différentes écoles, dirais-je, philosophiques. Nous voyons un peu une situation comme celle-ci, et puis arriver à un Dieu inconnu. Qu'allons-nous faire ? Eh bien, comme Paul, nous allons expliquer ce Dieu qui leur est inconnu, qui en réalité pour Paul fut l'ouverture pour annoncer le message de Jésus-Christ. Nous le voyons entrer en contact avec les Juifs. Nous le voyons ensuite sur la place publique. Nous le voyons aussi avec les philosophes. Et quand il a l'honneur d'être placé sur cette grande place, eh bien, cette doctrine, cet enseignement, il va falloir le communiquer à un Dieu inconnu. Je crois qu'il est important de réaliser, quelle que soit la ville, tant d'hommes et de femmes sont en réalité avec ce Dieu inconnu, que d'hommes et de femmes sont en train de prier Dieu sans le connaître. Je ne te connais pas, mais révèle-toi à moi. Je ne te connais pas, mais révèle-toi à ma vie, à mon cœur. Fais-moi un clin d'œil, s'il te plaît, pour que je croie si tu existes. Bien sûr que Dieu est celui qui est le Créateur. Il sait ce dont nous avons besoin. Et même dans notre 21e siècle, dans notre nation, où l'athéisme gagne de plus en plus d'hommes et de femmes, plus de 40% selon les sondages, il y aurait d'athées dans notre nation, quels que soient les philosophes avec leur nouvelle moralité à eux, quelle que soit aussi la République avec sa laïcité dont nous respectons. Mais combien d'hommes et de femmes disent « nous sommes laïcs,
Nous ne sommes point religieux. Nous voyons notre propre morale, non point à partir de la religion, mais à partir de la République. C'est-à-dire, nous faisons ce que nous voulons. Nous croyons en qui nous voulons croire. Nous vivons notre morale comme bon nous semble. Paul va s'adresser à eux en leur parlant de ce Dieu inconnu. Vous avez remarqué qu'il leur dit « Mais je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Chacun a sa manière de croire. Une version dit même « le culte des démons ». Et il dit même « je vois vos objets de votre dévotion ». Rien n'a changé sous le ciel. Les choses sont exactement les mêmes. Et ce Dieu inconnu, Paul, sait ce qu'il va faire connaître. Vous avez remarqué qu'il en vient au Créateur. Le Créateur de chaque être humain, c'est lui, malgré qu'il ne soit point loin, nous sommes là comme tâtonnant. Et ce Dieu veut se révéler tout particulièrement au cœur. C'est ce que quelques-uns ont dit, vos poètes, de lui nous sommes la race. Nous sommes la race de Dieu. C'est extraordinaire. Quelle que soit notre langue, quelle que soit notre culture, un jour, je me trouvais sur le continent africain, puis une jeune fille, elle est venue m'agresser. Vous savez, parfois, on se fait agresser comme cela. Elle m'a dit ce qu'elle pensait, et puis je lui dis, mais jeune fille, elle avait peut-être 14 ans, je lui dis, jeune fille, mais prenez un rasoir, et puis vous vous coupez là. Et moi, je vais me couper là. Et vous allez voir si ce qui coule de votre corps, si c'est du sang noir ou si c'est du sang blanc. Et moi, je vais voir si c'est du sang noir ou si c'est du sang blanc. C'est le même sang. Nous avons tous le même père. Et je lui dis, nous venons tous, nous avons exactement tous les mêmes parents. Nous avons le même Créateur que c'est Dieu, et nos parents s'appellent Adam et Ève. C'est extraordinaire, notre généalogie. On est à la recherche de notre généalogie. Mais si nous voulons aller loin dans notre généalogie, nous allons jusqu'au Jardin d'Éden. C'est eux nos premiers parents. Nous sommes de la race de Dieu. C'est lui notre Créateur. Et nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Oh, c'est facile de croire en quelque chose de visible. C'est facile d'avoir comme appui quelque chose de visible. Mais en réalité, le visible ne nous apportera rien. Je me souviens, cela remonte à bien des décennies, c'était une réunion à 20h, et puis il y avait l'action de l'Esprit de Dieu, et pendant que je prêchais, une femme était en train de s'étouffer. Elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, mais tout à coup, elle s'est mise à étouffer. Nous avons prié pour elle dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous avons réalisé que c'était des puissances ténébreuses. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, quelques heures après, elle avait une statue et cette statue est tombée et c'était émietté. Et ce qu'elle avait remarqué, c'est que dans la statue à terre, c'est qu'il y avait quelque chose à la gorge.
il y avait quelque chose de mauvais, il y avait des linges ou autre. Elle a réalisé que cela, c'était de l'occultisme, qu'ils avaient introduit cela dans cette statue, et cette femme a été libérée. A été libérée. Nous croyons à l'occultisme. Nous croyons à cette industrie diabolique. Nous croyons aussi de voir toutes ces statues qui sont de droite et de gauche. Nous voyons les hommes et les femmes qui sont chargés. Un jour, il y avait un homme, un évangéliste, dans le train. Il y avait là une femme et son enfant. Et l'évangéliste a parlé avec cette femme. Et la femme a expliqué son épreuve, sa difficulté face à son fils. Et la femme a dit, la maman, elle a dit, mais sur mon fils porte quelque chose. C'est un médium qui a mis cela sur, à l'intérieur de sa veste. Et l'évangéliste a dit, mais je voudrais voir. Ah non, surtout pas. C'est impossible. Et l'évangéliste a dit, si, je vais voir, je voudrais voir. Elles ont sorti le papier de la veste intérieurement que le médium avait mis. Il avait placé cet enfant sous la puissance ténébreuse. Et l'évangéliste a prié et l'enfant a été délivré. C'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, de savoir que Jésus-Christ est vivant. Et l'apôtre dit maintenant, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Vous comme moi, nous avons vécu dans l'ignorance spirituelle. Et puis il a plu un jour de se révéler à notre cœur. Il a plu un jour à ce que l'amour de Dieu gagne notre cœur. Il a plu aussi à ce que les chants de Dieu nous touchent. On ne s'est peut-être pas touché, souvenu de la première prédication. Il y a quelque temps de cela, suite à un chant, il y a une personne qui était à l'un de nos cultes, et pendant les chants, elle est sortie et mon épouse a parlé avec elle quelques minutes. Elle a dit, je sors, c'est trop fort ces chants. Je pleure, mais je vais revenir dans quelques minutes. Oui, c'est extraordinaire. La puissance de Dieu se manifeste. Je me souviens un jour d'un garçon et d'une jeune fille qui était à notre culte d'adoration. Et nous avons chanté un cœur sous le sang, le précieux sang de Jésus. Il y a eu une visitation puissante de l'Esprit de Dieu, si bien que ce garçon et cette fille que je connaissais ont quitté le culte, je ne les ai plus jamais revenus, jamais revus. On nous a expliqué, c'est vrai que c'est une réalité, que dès lors dans certaines réunions, lorsqu'il y eut la visitation dans notre nation, dès lors que l'on prononçait le nom de Jésus, les démons étaient chassés et les gens se convertissaient. Le nom de Jésus est un nom merveilleux, est un nom extraordinaire. Il n'y a pas d'autre nom que celui que le nom du Seigneur Jésus. Jésus. Lorsque j'étais à la campagne quelque temps, chez mes grands-parents, il y avait un homme qui se nommait, prénommé Jésus. Alors ça m'avait choqué, moi. Jésus, comment ? Il se prénomme Jésus. Et c'est pour ça qu'au temps de Jésus, beaucoup s'appelaient Jésus. Et l'on disait Jésus de Nazareth. On savait reconnaître Jésus de Nazareth. Je préfère m'appeler par mon prénom que plutôt que celui de Jésus. Il y a un pasteur de notre mouvement qui se prénomme Dieu. C'est difficile à porter ces noms-là. J'ai mon prénom, moi, il signifie qui est comme Dieu. C'est très lourd à porter, hein. Mais j'y pense pas, parce que je sais, je ne suis pas comme Dieu. Mais c'est très lourd à porter, s'appeler Dieu. Mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. L'apôtre Paul dit, il y a eu ces temps d'ignorance. Et ces temps d'ignorance à l'égard de ce Dieu inconnu, c'est ce que vous vivez à Athènes. Mais il annonce maintenant ce Dieu, c'est qu'en tout lieu que les hommes aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Une preuve certaine par l'homme. Mais dites-moi, vous avez lu dans notre lecture combien de fois il est parlé du nom de Jésus ? Est-ce que l'homme qu'il a désigné, on met le prénom ? Est-ce que vous avez bien lu ? Est-ce que le nom de Jésus est mentionné dans notre lecture ? Non ? Vous avez remarqué que le nom de Jésus, sauf erreur, il n'est pas marqué, il n'est pas cité, il n'est pas écrit. Il leur montre que c'est vraiment le temps de l'ignorance pour eux sur la personne de Jésus. Mais il dit maintenant, il faut vous changer de mentalité. Il faut que vous reveniez à ce Dieu créateur. Il faut que vous sachiez Dieu a désigné un homme. Et cet homme est mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et il ressuscitera les morts pour le jugement ou pour la vie éternelle. Ils étaient attentifs. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Ils se sont moqués. C'est terrible de subir la moquerie. Mais Paul ne s'est pas laissé déstabiliser. Les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Une autre fois. Une autre fois. Ne remettons point à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui même ne nous appartient pas. En réalité, si je faisais le claquement de doigts, c'est déjà du passé. Nous sommes dans le présent, mais qui en réalité le présent ne nous appartient pas. Parce que le Créateur peut venir et nous prendre. La vie est précieuse. Notre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi il faut que nous sachions qu'il y a une résurrection d'entre les morts. Et que celui, l'homme que Dieu a désigné, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il dit que c'est un homme. Mais nous croyons aussi qu'il a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie la Vierge. Qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et Paul se retira. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aéropagiste, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Ces personnes ont cru à l'Évangile. Et c'est là quelque chose d'important. On a dit que Paul a connu l'échec à Athènes. Je veux bien croire, mais la prédication ne se termine pas sur un échec. La parabole, on dit aussi, Jésus l'a enseigné, les différents terrains, les trois terrains qui prouvent l'échec, la semence. Mais les paraboles ne se terminent pas par l'échec, mais par la victoire. par celles et ceux qui ont accepté. Ça porte du fruit. Bon cœur, honnête, droit. Non pas que les cœurs étaient honnêtes, mais ouverts, et sont devenus droits et honnêtes. Et à Athènes, ça ne se termine pas par l'échec. Moi, je voudrais que chaque prédication se termine avec 3000 personnes qui se repentent. Non ? Ça serait formidable. Je voudrais aussi, comme Jonas, ça se termine avec 120 000 personnes, les hommes, plus les femmes, plus les enfants. Ça serait extraordinaire. Mais dites-moi, si cette prédication se terminait avec quelques-uns, est-ce que ça ne serait pas déjà bien ? Est-ce que ça ne serait pas bien ? Non ? Ça serait formidable. Seulement quelques-uns. C'est écrit au... Non pas quelqu'un, mais quelques-uns. Voudriez pas accepter Jésus-Christ comme votre sauveur avant qu'il vous juge? Je voudrais raconter cette histoire aux enfants. Écoutez-moi, c'est pour vous aussi, les enfants. C'est un petit garçon, il a peut-être 8, 9, 10 ans, et puis il a failli se faire écraser. Ça vous est arrivé des fois? Vous avez failli être écrasé? Et vous êtes rentré, vous êtes « Maman, papa, j'ai failli être écrasé !» Et puis c'est grâce à un monsieur qui l'a attrapé, et la voiture ne l'a pas écrasé. Et ce monsieur qui l'a sauvé, le petit garçon le regarde et il s'enfuit et il court. Et puis, malheureusement, ce garçon a grandi et quand il est devenu grand, 17, 18 ans, il a fait des bêtises. Et ça, faut pas faire des bêtises. Hein, les enfants ? Faut pas faire les bêtises. Faut pas faire les bêtises. Et il s'est retrouvé au tribunal. Et il s'est retrouvé incarcéré. Vous savez ce que c'est qu'incarcéré ? Vous savez ce que c'est que la prison ? Non, vous connaissez pas. Vous n'êtes pas allé, tant mieux pour vous. Mais vous savez, c'est un lieu, une prison, où on enferme les personnes qui ont fait des choses pas bien en attendant d'être jugées, ou qui ont été jugées. Puis le moment du jugement est venu, et là, bien sûr, il a attendu toutes les erreurs qu'il avait faites. Et puis le juge lui dit, mais, comment dirais-je, avez-vous quelque chose à dire ? Et le garçon prend plein d'assurance. Il dit au juge, « Ah, monsieur le président, vous savez, je vous reconnais. Vous ne me reconnaissez pas. Mais je suis le petit garçon que vous avez sauvé. J'ai failli être écrasé et c'est vous qui m'avez sauvé. » Ah, il a dit, ça va bien se passer. Dans son cœur, il n'y a pas de problème là, le juge va me libérer. Va me libérer. Ah oui, il était content, hein. Il était content. Et le juge prend la parole. Il lui dit, c'est vrai. Il y a tant d'années, j'ai été votre sauveur. Mais là, avec les erreurs, avec ce que vous avez fait, je ne suis pas votre sauveur, mais je suis votre juge et vous êtes condamné à tant de prison. Vous comprenez ? Vous comprenez bien ? Jésus veut vous pardonner. Jésus veut que vous lui donniez votre cœur. Et il n'est pas votre juge, il est votre sauveur. Il veut pardonner ce que vous avez fait. Et vous évitez toutes sortes d'erreurs. Sinon, un jour Jésus, lui, il veut vous pardonner, mais si vous refusez son pardon, il sera votre juge. Donc donnez-lui votre cœur. Mais en parlant aux enfants, j'ai parlé aussi aux ados. Et en parlant aux ados, j'ai parlé aux adultes. On prie le Seigneur. On lui demande sa grâce, sa bénédiction. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut donner son cœur au Seigneur? Un enfant qui veut lever la main et lui dire « Jésus, je te donne mon cœur ». Oui, baisse ta main. Est-ce qu'il y a encore une fille, un garçon qui veut donner son cœur au Seigneur? Oui, tu baisses ta main, je te vois. Est-ce que quelqu'un? Oui, je te vois. Oui, aussi, je te vois. Oui, toi aussi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore des enfants? Oui, toi, je te vois. Oui, gloire à Dieu. Voyez-vous, béni soit Dieu. Oui, béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, béni soit le Seigneur. Ah, ça réjouit le cœur. Oui, béni soit le Seigneur. Les enfants, les jeunes, les ados répondent à l'appel. Et vous, les adultes, est-ce que quelqu'un cet après-midi a besoin de revenir à Dieu? A besoin de se repentir, de se convertir? Levez-vous à votre place, vous qui avez levé la main, et je vais prier pour vous. Et nous allons prier pour vous. Levez-vous à votre place. Personne ne vous regarde. Levez-vous à votre place. Vous qui avez levé votre main. Seigneur notre Père céleste, merci pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ces cœurs qui sont touchés. Fais grâce Seigneur. Merci pour le sang de l'agneau de Dieu qui les purifie de chaque péché. Merci pour cette journée qui marque leur cœur. Du sceau divin de Dieu, saisis-toi de leur cœur, saisis-toi de leur vie, Seigneur. Remplis-les de ta grâce, de ton Esprit Saint. Nous te remercions dans le nom précieux de Jésus. Bénis ces adultes, alléluia. Et ensemble, nous disons merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.